Chers amis, nous retrouvons Jean-Marie Dujardin, laïc dominicain à Lille. Lors de notre dernière émission, Jean-Marie Dujardin nous a parlé de Noël. Aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est la Sainte Famille. Bonjour à vous Jean-Marie, j'en profite tout d'abord pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2018.
Bonjour Armand, bonne année à vous aussi, et puis aussi tous mes voeux de santé, de bonheur, familial surtout, parce que c'est très important à tous nos auditeurs, que j'invite maintenant, bien sûr, oui, à entrer avec moi dans cette méditation sur la Sainte Famille. Vraiment très très beau sujet, et sujet très d'actualité, dans notre monde où la famille est effectivement bien souvent mise à mal. Le culte rendu à la Sainte Famille se développa à partir du XVIIe siècle. Il fut introduit par les pères de la Compagnie de Jésus au Canada, d'abord dans les lieux où était vénéré Saint Joseph. La messe de la Sainte Famille, quant à elle, fut instituée par le pape Léon XIII en 1893, lequel dota également cette solennité d'un office dont il composa lui-même les hymnes. Cet office se termine, le soir, par cette très belle oraison. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Elle nous en dit long, cette prière très courte. Elle nous montre d'emblée que cette famille, qui nous est donnée pour modèle et référence, préfigure d'ores et déjà la grande famille de Dieu, fruit magnifique de son alliance avec l'homme, réunie dans la Jérusalem céleste. Et c'est le pape Pie XI qui, en 1921, rendit obligatoire pour toute l'Église cette fête, laquelle trouve sa place dans le calendrier liturgique, le dimanche qui suit Noël. Mais qu'a-t-elle donc de saint et de si extraordinaire, cette famille? Ainsi que le souligne un article du journal La Croix du Nord, paru en 2012, elle se forme sur un projet de rupture de fiançailles, cette famille. Parce que la fiancée est enceinte, avant d'avoir connu son époux, le père de l'enfant n'est donc pas le père, et l'enfant lui-même, à 12 ans, fait une fugue qui mettra ses parents dans la pire des angoisses. On pourrait vraiment se poser la question, si l'on ne savait pas que Dieu l'a voulu ainsi, lui, dont les voies sont décidément impénétrables, en fécondant Marie de sa grâce, et en veillant lui-même à l'accomplissement du dessein surprenant qui est le sien, lequel dessein nous est rapporté par les saints évangiles. Voilà qui me fait penser que la sainteté de cette famille toute simple et ordinaire résulte bel et bien de sa relation à Dieu, dont elle accomplit totalement la volonté dans une entière soumission. Non pas la soumission craintive et angoissante, mais la soumission heureuse et lumineuse qui est le fruit naturel de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour mutuel. L'amour qui fait sourdre dans le cœur, comme une source d'eau vive, la préoccupation permanente de répondre positivement aux souhaits de celui ou de celle que l'on aime par une attention amoureuse de tous les instants. C'est à cette soumission-là à laquelle saint Paul se réfère, je pense, dans ses lettres aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 33, et chapitre 6, verset 4, et aux Colossiens, chapitre 3, verset 18 à 21. Lettres par lesquelles il exhorte l'épouse à être soumise à son mari, ce dernier à aimer sa femme, et les parents à ne pas exaspérer leurs enfants. D'ailleurs, dans sa lettre aux Éphésiens, il commence par dire « Soyez soumis les uns aux autres ». Je répète, « les uns aux autres », dans la crainte du Christ. Tout le décalogue que résument les deux premiers commandements sont présents dans la Sainte Famille voulue par Dieu. L'amour de Dieu par-dessus tout et l'amour du prochain. Le oui de Marie, toute soumise, dans la foi et l'amour envers son Dieu. Le oui de Joseph, rempli de foi lui aussi en ce Dieu qui lui fait connaître son dessein par son ange. Un oui rempli de respect et d'amour pour celle qu'il accepte de prendre pour épouse. Eh bien, ces deux oui sans réserve qui s'unissent dans la grâce divine et qui font de Marie et Joseph de véritables époux, déborde de la sainteté qui est fruit de la relation sans faille à Dieu. Et puis il y a aussi, pardon, je devrais plutôt dire, il y a d'abord le oui de Jésus. La lettre aux Hébreux, reprenant les paroles du psaume 40, nous le rappelle très bien. Je cite, « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, « Voici, je viens. » Car c'est de moi qu'il est question dans les rouleaux du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, met aussi en exergue cette révélation. Je cite toujours. Le Christ, lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Oui de Jésus, en effet, qui le conduit à l'âge de 12 ans, alors que ses parents l'avaient emmené en pèlerinage au temple de Jérusalem, à fuguer, en quelque sorte, pour proclamer d'ores et déjà la parole de Dieu. Cette parole qu'il porte en lui, cette parole qu'il est lui-même, puisqu'elle s'est incarnée parmi nous en sa personne. Ce qui lui fait dire à ses parents interloqués et bouleversés d'angoisse, « Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» C'est en Saint Luc que nous lisons cela, au chapitre 22, verset 40. Jésus, donc, est bien dans la soumission totale et amoureuse vis-à-vis du Père, dont il est pourtant l'égal en divinité. Et cela, en conséquence de l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous. Mystère vertigineux, n'est-il pas vrai? Il nous montre ici l'étonnante et incroyable charité pleine de compassion de notre Dieu. La lettre aux Hébreux, que l'on peut encore citer ici, nous le dit très bien. Ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges. Ce sont les fils d'Abraham. Il fallait donc devenir, en tout, semblable à ses frères, pour être, dans leur relation à Dieu, un grand prêtre compatissant et fidèle, capable d'enlever les péchés. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Nous lisons ce passage au cours de la messe de la présentation de Jésus au temple, 40 jours après Noël. Ainsi, l'Église rappelle que c'est Dieu qui, en la personne du Fils, vient au-devant de son peuple, accomplissant la prophétie du prophète Malachie, qui annonçait la manifestation de Dieu dans son temple. La relation à Dieu, qui fait la sainteté de la Sainte Famille, nous le voyons clairement, est bien ce que Jésus est venu établir, dans le cadre de l'alliance nouvelle de ce Dieu avec l'humanité. Il est venu l'établir pour nous. Et Marie, sa mère, ainsi que Joseph, son époux, tous deux totalement en osmose avec la volonté du Créateur, en sont avec lui, Jésus, les co-acteurs dans l'harmonie de l'amour le plus parfait. La voilà donc, la Sainte Famille, une femme et un homme de notre race, un enfant totalement Dieu et totalement homme, qui s'inscrivent pour toujours au cœur de notre monde, le projet merveilleux de Dieu pour notre salut, par ses épousailles avec l'humanité. Cette relation à Dieu nous permet d'envisager l'existence humaine avec des yeux neufs, éclairés, transformés. Existence basée sur l'amour, d'où découle l'esprit de service, de respect, de bénédiction, au sens profond de ce mot qui signifie dire du bien. Oui, dire du bien, vouloir le bien de l'autre, et pour cela être serviteur, comme Jésus nous y invite, non pas dans la complaisance facile, qui engendre toutes les dérives, mais la vigilance et la droiture, parfois nécessairement exigeante. Le livre des Proverbes, en son chapitre 22, nous donne un exemple de cette exigence. Je cite encore, « Donne à tes enfants de bonnes habitudes, il les gardera toute sa vie. » Et encore, dans le même registre, pouvons-nous citer au Deutéronome, chapitre 5, « Honore ton père et ta mère, comme te l'a demandé le Seigneur Dieu. » Il est douloureux de voir aujourd'hui tant de familles désunies, déchirées par des drames de toute nature, source de larmes, mais aussi, hélas, de rancœur, de haine, parfois, hélas. Bref, de circonstances mortifères. Cette observation me fait penser à ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, versets 34 à 36. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut comprendre, me semble-t-il, que, parmi d'autres raisons bien sûr, sans la relation à Dieu qui constitue l'essence même de la Sainte Famille, il ne peut pas y avoir l'harmonie parfaite, constituée de ces vertus que l'oraison de l'office du soir de la fête de la Sainte Famille, évoquée au début de cette méditation, nous invite à demander dans notre prière. Jésus est venu nous indiquer la route, et c'est bien parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme qu'il s'exprime de la sorte, pour nous mettre en garde. Seigneur, dans ton infinie tendresse, donne-nous la grâce immense d'aimer comme toi tu aimes. Entends, je t'en supplie, et nous t'en supplions, cette prière du pape François, ton fidèle serviteur, qui clôt son exhortation apostolique intitulée « La joie de l'amour » par ces mots. Que la Sainte Famille, fasse prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille dans le projet de Dieu. Jésus, Marie, Joseph, exaucez nos prières. Oui, prions pour nos familles en perte de point de repère. Que notre Père tout aimant tourne notre regard vers Jésus, Marie et Joseph, et remplisse tous les cœurs du désir de la relation permanente avec lui.
Merci beaucoup Jean-Marie, je rappelle que vous êtes laïc dominicain à Lille. À très bientôt pour une nouvelle émission au rythme de l'année liturgique.
Avec le plus grand plaisir, merci Armand.